Alors, quelques extraits d'une manifestation spontanée le soir du 21 avril 2002, lorsqu'on apprenait que le deuxième tour des élections présidentielles verrait s'affronter Le Pen et Chirac. C'est cet extrait pour annoncer la venue ce soir à nos côtés de Michel. Michel, l'un des animateurs du CRIDA, avec qui c'est presque rituel, on se voit régulièrement pour faire un petit peu le point, dresser une sorte de panorama des droites extrêmes et de l'extrême droite en Europe, pour regarder un petit peu le côté brun d'une Europe pour laquelle on nous demande de voter, pour une constitution. Et à ce propos, la transition est habile. On va commencer par la France, et justement, si on s'est beaucoup intéressé à nous de notre côté à la campagne du non de gauche, il existe aussi une campagne du non de droite qui, par rapport aux dernières élections européennes pour Maastricht de 92, semble occuper un espace politique beaucoup moins grand. Est-ce que tu partages cette vision-là? Et puis, à quoi ressemble cette campagne du non de droite?
Tout d'abord, bonsoir. Donc, j'aurais tendance à penser quand même que ton analyse là, mérite la nuance. Rappelons-nous les présidentielles auxquelles tu faisais allusion, donc le premier tour puis le second, mais surtout le premier tour, si l'on additionne les voix du front et des différents candidats extrémistes et de droite extrême, on arrivait très concrètement à quelque chose qui frisait les 30% des voix, donc concrètement pratiquement un tiers de l'électorat. Alors bien évidemment, cet électorat n'est pas captif, n'est pas, je dirais, acquis à vie aux candidats qui ont recueilli les suffrages, mais pour autant, lorsque on regarde de plus près, tu avais raison de le signaler, les campagnes, je ne dirais pas la campagne, mais les campagnes, car c'est un petit peu notre dada au CRIDA, mais on aime bien quand même, non pas nuancer pour le plaisir, mais parce qu'effectivement, même si, pour faire très très court, on pourrait dire que tous ces gens-là partagent les mêmes opinions, donc en gros la haine, l'exclusion, et de l'étranger, de la démocratie, mais pour autant, lorsqu'on creuse un petit peu, et je pense qu'il est nécessaire de le faire, parce que sinon on peut éventuellement se tromper d'analyse et donc de réaction, on se rend compte que les campagnes sont, j'ose le mot, plurielles. J'allais dire une droite extrême, une extrême droite plurielle, cela existe et ça se traduit dans leur campagne. Alors les campagnes, il y en a plusieurs. Il y en a une aujourd'hui qui est effectivement celle qui est liée au référendum sur le traité constitutionnel européen, donc du 29. On pourrait, pour faire très très court, dire que les campagnes de l'extrême droite de tout poil et des droites extrêmes et des souverainistes, parce que j'ai parlé sur les souverainistes, il y a des souverainistes de droite, il y a aussi des souverainistes de gauche. Alors le gauche, vous mettez ou pas des guillemets en fonction de vos envies respectives lorsque vous nous écoutez, mais avec bien sûr des passerelles. Alors, résumé à l'essentiel, c'est une variation sur plusieurs thèmes. Les thèmes en question, ils sont récurrents à l'extrême droite, si ce n'est que là maintenant on a incorporé une petite variante en quelque sorte, c'est l'immigration, la xénophobie, et lié à tout ça bien sûr, la Turquie qui concentre ce que je viens d'indiquer, à savoir la peur réel ou totalement artificiel d'une entrée massive d'un pays dit à majorité musulmane dans l'Europe demain. Donc ça, c'est le schéma de base de pratiquement tous les tenants du non de la droite extrême et de l'extrême droite. Alors quand je dis tous les tenants, faut donner des noms. Je crois que c'est une spécialité ici, non pas de balancer, parce que ces gens-là, on n'a pas les dénoncés. Hélas, je disais 30% des voix, bon, les électeurs ne les connaissent que trop, surtout ceux qui votent en leur faveur. Bon, c'est principalement le Front National, bien évidemment. Le mouvement de Jean-Marie Le Pen, le mouvement national républicain de Bruno Maigret, s'il essaie de survivre par Internet interposé, c'est quelque chose qui a du mal à se voir, je dirais, dans la vie au quotidien. Et c'est tant mieux, on ne se plaindra pas, effectivement, de la disparition relative de ce mouvement, même si récemment, il vient de sortir le dernier numéro de sa feuille de chou qui s'appelle Le Chêne. Et sur la première page, eh bien, il y a très concrètement deux thèmes. Non à la Constitution, non à l'entrée de la Turquie en Europe. Avec, derrière, des arguments qui empruntent un petit peu à, je dirais, à tous les corpus des différents courants idéologiques de l'extrême droite. Cela va des racines chrétiennes de l'Europe. On verra que ce n'est pas le monopole du MNR, bien évidemment. Ils le mettent parce que ça correspond aussi à une partie de leur électorat, pas du tout de leur cadre. Lorsqu'on connaît les cadres du MNR, a priori, les racines chrétiennes de l'Europe, ce n'est pas tout à fait leur tasse de thé. On est plutôt sur le côté païen des choses. Mais enfin, les élections, c'est aussi l'occasion de, je dirais, de ratisser large. Donc le MNR, on n'en parle plus, son sort est réglé. Le mouvement pour la France de Philippe Devilliers, ça c'est aujourd'hui, si on allume n'importe quelle radio ou si l'on regarde la télévision ou si l'on lit la presse, Devilliers se présente comme en gros le leader du non tout court. Hein, il n'hésite pas à s'approprier la chose. Et bien évidemment, lorsqu'on commence un peu à lui contester ce leadership, il dit bon, effectivement, le non de droite, le non souverainiste, le non français en quelque sorte, lui aussi avec les mêmes thématiques. Alors sur l'immigration, il est plus nuancé, bien évidemment, il est plus nuancé. Par contre, sur la Turquie, bon, il en a fait un petit peu sa spécialité, son cheval de bataille, mais sur la Turquie, là-dessus, il est effectivement intransigeant et on retrouve cette thématique en permanence présente dans les points qu'il développe. Alors la Turquie, bien sûr, racine chrétienne de l'Europe, islam, pays musulman, bon, il est plus soft que Devilliers, mais pour autant, c'est quelque chose sur lequel il insiste fortement. Alors bien sûr, s'il se limitait à cela, ça serait un petit peu court quand même pour capter un électorat. Bon, la peur de l'entrée de la Turquie dans l'Europe et d'une déferlante migratoire, c'est un peu court, même si ça a marché. Et je dirais, hélas, ça marchera encore, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur le sujet. Alors, ils essaient un petit peu d'instiller quelques éléments de social. Bah, profitant par exemple de l'affaire du textile chinois. Il n'y a pas plus ardent défenseur de la classe ouvrière française, je mets des guillemets sur, non pas classe ouvrière française, mais sur défenseur, que Philippe Devilliers, ou Jean-Marie Le Pen, ou Bruno Maigret. Bon, Christine Boutin, on y viendra, elle n'en parle pas trop, parce que bon, la classe ouvrière, a priori, française ou pas, c'est pas trop son souci majeur. Mais pour autant, ils essaient de faire croire, parce qu'on est quand même sur un piège absolu, sur un mensonge éhonté, de faire croire que eh bien ils seraient les meilleurs défenseurs eh bien de ces exclus, de ces licenciés, de ces délocalisés. Le Front est allé par exemple jusqu'à produire un argumentaire, un dossier à destination de ses militants sur les délocalisations, et on pourrait, avec une lecture très très rapide, penser que cela a été écrit par des syndicalistes. Parce qu'effectivement, c'est pétri de bon sens, mais pour autant, bien sûr, revisité par la xénophobie, par le racisme et par toute l'idéologie du Front National. Alors, FN, MNR, MPF, il y a aussi, ben là on a un petit peu ressuscité, je dirais, non pas un moribond, mais enfin, après, je ne suis pas spécialiste médical, mais Charles Pasqua, le Rassemblement pour la France, effectivement, aujourd'hui, je crois, si on s'en tient à ce que disent les gazettes, Charles Pasqua est un petit peu englué dans quelques difficultés politico-judiciaires, hein, irakiennes, africaines. Bon, effectivement, il a quelques petits soucis, mais pour autant, il est, en quelque sorte, réintroduit dans le jeu politique, car vous vous souvenez sans doute hein, que tous les mouvements, hormis le MNR, hein, qui n'existe pratiquement plus, eh bien, se sont vus quand même attribuer un temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radio-télévisée, et surtout 800 000 euros. Alors, avec 800 000 euros, on fait vivre des morts. Effectivement, et le MPF, le Rassemblement pour la France de Charles Pasqua, eh bien, profitera, j'imagine, de l'aubaine pour se refaire, après le référendum, une santé politique et éventuellement de relancer ses réseaux qui étaient quasi moribonds et qui avaient disparu de la surface. Alors, quelques mots sur, c'est-il le nom de Madame Boutin, je pense que les auditeurs de votre émission et plus largement de FPP la connaissent bien, elle était partie en guerre contre le Pax, contre l'union homosexuelle. Bon, elle n'a pas fondamentalement changé son fusil d'épaule. Et aujourd'hui, elle dit, il y a des raisons pour voter oui, mais il y a des raisons pour voter non. Et a priori, le non a tendance à l'emporter. Son mouvement politique hein, autour d'elle, ça s'appelle le Forum des Républicains Sociaux. Mais s'il y a quand même une raison majeure, c'est d'une part les racines chrétiennes de l'Europe qui sont un petit peu chahutées par... C'est ce qu'elle pense, hein, parce qu'effectivement, je pense que s'il y a des auditeurs qui sont des laïcs invétérés, je pense qu'ils ont un avis sans doute plus nuancé sur la présence et la prégnance des religions et de la religion catholique chrétienne au sein du projet de texte constitutionnel. Mais enfin, en tous les cas, elle y voit quand même quelque chose d'affreux, en savoir qu'on ne prend plus en compte eh bien, l'héritage chrétien catholique, hein, parce que dans la chrétienté, ça se divise quand même en deux branches. Hein, et elle est plutôt de la branche catholique, et même de la branche très, très catholique, pour ne pas dire ultra-catholique, puisqu'elle elle sévissait dans une structure qui conseillait le défunt pape Jean-Paul II, une structure qui traitait, je vous le donne en mille, de la famille, non pas homosexuelle, mais de la famille, je dirais, tout à fait homologuée, classique. Donc, elle, elle dit, il y a une raison en dehors de celle-ci sur la religion, c'est que le traité, avec ce qu'il permet éventuellement de mettre en place, eh bien, favoriserait le mariage homosexuel. Puisque l'un des arguments mis en avant, c'est de dire qu'en gros, il n'y aurait plus de discrimination qui serait faite quant au sexe, et donc pour les aspects plus institutionnels, et donc le mariage homosexuel deviendrait possible. Alors je pense que là, elle a peut-être dû boire un peu trop lorsqu'elle a lu le texte. A priori, je l'ai lu attentivement, le paragraphe concerné, je n'en ai pas tout à fait, la, je dirais, le même décryptage. Enfin bon, je ne suis pas membre du Forum des Républicains Sociaux, je dirais Dieu m'en garde, donc là-dessus, les choses sont relativement claires. Et enfin, il y a les fameux souverainistes dont je parlais. Je ne dis pas que ce sont les plus dangereux, mais en tous les cas, ce sont des gens que peut-être les auditeurs et les auditrices de FPP ont pu rencontrer, parce que non pas tant les, je dirais, les Dupont-Aignan, qui est député UMP, les différents groupuscules de droite qui mettent en avant, je dirais, le côté national, souverainiste. Ce ne sont pas des fascistes, ni des néo-fascistes, xénophobes. On peut garder de plus près, je dirais pourquoi pas, faut regarder. Mais pour autant, eux, c'est la souveraineté de la France, c'est l'héritage gaulliste, gaullien, c'est 1945, 1958 et tout ce qui va avec. Mais le danger, c'est que ces gens-là se disent « nous sommes des souverainistes ». Et le temps d'une campagne, ça s'est passé à Maastricht en 92, tu l'as rappelé au départ de l'émission, mais ça se reproduit aujourd'hui, à savoir, il y a des républicains des deux côtés, des deux rives de l'échiquier politique, et donc ces gens-là, ponctuellement, peuvent se retrouver sur des grandes idées transverses qui transcendent, en quelque sorte, la politique politicienne, disent-ils, hein, je reprends, je mets des guillemets bien évidemment, et on trouve aussi, je dirais, à gauche, alors tout à l'heure, je crois que j'ai entendu parler de chevènementiste lors du rassemblement de samedi en faveur du nom de gauche, cette fois-ci, effectivement, tout autour de la mouvance chevènementiste, hein, pas du parti au sens strict du terme de chevènement, qui a connu quelques vicissitudes, une scission, et autour de cela gravit tout un tas de structures, de journaux qui, eh bien, servent de passerelle, qui n'hésitent pas, sur leur site internet, dans leurs publications papier, eh bien, à se renvoyer l'ascenseur, à s'interviewer et concrètement à eh bien, semer une confusion, parce que lorsque vous avez un dirigeant syndicaliste d'une confédération que je ne nommerai pas, un militant qui par ailleurs a un passé politique a priori honorable, eh bien mettre sa voix très, très, très à côté d'un député qui a commencé ses classes, je dirais, au GUD, donc qui n'est pas tout à fait à gauche, hein, quand même un groupuscule défunt, mais dont les, je dirais, les victimes se souviennent bien, parce qu'ils avaient des arguments contondants et relativement percutants, eh bien, tous ces gens-là cohabitent au sein de publications. Et là est le danger, hein. Il ne s'agit pas de rouge-brun, qu'on ne se méprenne pas, c'est autre chose. Alors, c'est sûr qu'à la SERP, on pourrait dire que c'est la même chose, mais concrètement, c'est quelque chose de très différent. Mais en tous les cas, là, on a l'exemple d'une collusion, d'une collaboration assumée. Elle n'est pas honteuse, elle est tout à fait assumée, revendiquée en disant « notre intérêt supérieur, c'est la France. Pour le reste, on verra le 30 mai au matin et chacun reprendra ses billes », sachant que ce n'est pas vrai, parce que déjà en 92, il y avait ce même argumentaire et on les a retrouvés. On les retrouve en permanence, ils animent des clubs, etc. etc. Donc voilà un petit peu le schéma, le paysage, je dirais, du non-extrémiste de droite non négligeable, comme dans la campagne, lorsqu'on regarde les intentions de vote réalisées par les différents instituts de sondage. Alors, après, on pense à ce que l'on veut des sondages, hein, mais on peut quand même leur accorder un minimum de crédit. En tous les cas, ça permet de faire des émissions de radio, le cas échéant. Mais on regarde qu'effectivement, cet électorat est bien présent, est très, très majoritairement en faveur d'un non. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, même si le front, vous l'avez sans doute remarqué, hein, Le Pen, hormis ses premières émissions, où là, quand même, il faisait du Le Pen, hein, il réagissait très, très fort, comme il sait le faire, ces derniers temps, il s'est calmé. Ce n'est pas uniquement lié à ses ennuis de santé, à l'instar de Raffarin, c'est surtout parce que ses conseillers ont dû lui dire que, ben, en gros, si le nom doit être victorieux le 29, mais il faut quand même que le Front National ait un profil relativement bas pour ne pas effrayer, je dirais, des électeurs qui seraient tentés de voter non, mais dont les tenants du oui, là aussi il faut quand même le marquer, essaient un petit peu de les stigmatiser en disant en gros, voter oui, c'est effectivement un oui pour l'Europe, pour le progrès social. Là, je caricature, mais c'est un peu l'idée, à peine c'est l'idée. Par contre, voter non, c'est voter avec les fascistes, c'est voter avec le vicomte de Villiers, c'est voter avec le nazi Jean-Marie Le Pen, je mets des guillemets, hein, parce qu'on ne sait jamais, les procès peuvent pleuvoir. C'est quelque chose, effectivement, que ses conseillers lui ont dit. Donc, aujourd'hui, il a un profil bas. Et vous remarquerez dans les émissions télévisées, il est relativement, je ne dis pas soft, parce que Le Pen ne sera jamais soft. Le Front National ne peut pas être soft. Ceci étant, il met les choses en sourdine et va même jusqu'à, je dirais, balancer des compliments, en quelque sorte, à ses partenaires. Là encore, avec des guillemets, le terme guillemets est souvent utilisé, mais on est un petit peu obligé dans ce genre de choses, en disant, en gros, tout le monde concourt à l'émergence d'un vote non. Donc, concrètement, eh bien, tout le monde est le bienvenu, quelles que soient par ailleurs ses affinités idéologiques ou politiques. Lorsqu'on connaît Le Pen, ça peut faire sourire, mais sur le fond, aujourd'hui, c'est quand même le discours que tient le Front National, au-delà de Jean-Marie Le Pen, et la famille Le Pen, hein, juste la famille Le Pen, est à l'unisson. La Marine Le Pen, dont on avait éventuellement vanté les velléités de dissidence politico-familiale, eh bien Marine Le Pen tient absolument le même discours que son papa, Jean-Marie étant allé jusqu'à dire « Si vous étiez venu à Strasbourg lors de notre réunion de groupe il y a quelques jours, vous auriez vu bien que tout cela n'était qu'un épiphénomène, ça arrive de la meilleure famille. » Eh bien, Marine dansait avec Bruno Gollnisch à l'occasion de notre fête de fin de réunion. Donc, comme quoi, on a des divergences politiques, ça s'exprime dans un cadre démocratique, là, il y a plein de guillemets, bien sûr, pour autant, on se retrouve sur ce qui constitue nos valeurs, leurs valeurs, sur l'essentiel, et effectivement, là-dessus, ils ont bien raison.
Alors voilà, on est toujours avec Michel. On va, après ce point sur la situation en France, essayer de voir un petit peu comment les choses ont évolué, comment les choses avancent en Europe. Alors je ne sais pas par quel pays tu veux commencer. On pourrait peut-être commencer par la Grande-Bretagne, où il y a eu des élections récemment et où l'extrême droite s'est comportée.
Tout à fait. Effectivement, je pense que l'actualité européenne, en dehors du référendum, hein, du même nom en franco-français, est riche, j'allais dire hélas, hein, est riche en à la fois en informations, en nouveautés aussi. Je pense que nos auditeurs, auditrices qui sont habitués à un petit peu avoir quelques repères quant aux sigles, aux noms de famille, des affreux en quelque sorte, eh bien, vont devoir remettre un petit peu leur tablette à jour, puisqu'il y a eu quelques modifications qui ne sont pas que des épiphénomènes dans différents pays. Il y a eu les élections, il y a eu des bouleversements, bon, pas radicaux, mais des bouleversements quand même relativement importants. Et bien évidemment, et c'est cela qui fait que notre combat est plus que jamais nécessaire, jamais à la baisse, toujours à la hausse. Donc concrètement, alors je ne vais pas noircir le tableau en disant que le fascisme est aux portes, ça c'est un discours que nous connaissons bien, mais pour autant, le danger n'a jamais été si réel. Et peut-être commençons par un pays dont on parle peu, un pays qui produit, je crois, des coucous et du chocolat. Vous aurez peut-être reconnu la Suisse, la Confédération helvétique, nos voisins. Si j'osais poser la question, dire, pensez-vous qu'en Suisse, il y a une extrême droite, une droite radicale, populiste, parce que l'extrême droite, effectivement, en Suisse, il existe une extrême droite classique, à l'instar du Front National et des différents groupuscules identitaires, le tout, bien sûr, décliné en fonction des combinaisons linguistiques de ce pays voisin. L'extrême droite classique, je dirais, on n'en parle pas, mais pour autant, il y a une droite populiste qui s'appelle l'Union démocratique du centre, qui est dirigée par un monsieur qui est milliardaire, non pas comme Le Pen. Alors pour moi, effectivement, milliardaire Le Pen, ce n'est pas forcément un argument de vente, j'allais dire, mais là, c'est quelqu'un qui œuvre dans l'industrie. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui est devenu riche grâce à la politique, mais c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a fait fortune en étant un entrepreneur version helvétique et qui est donc très très riche et qui a mis une partie effectivement de sa fortune personnelle au service de sa cause. Peut-être, je n'en sais rien, je ne le connais pas et peu importe, je dirais avec un espoir de retour sur investissement, mais là n'est pas le problème. Si je vous disais qu'effectivement en Suisse, il y a un président qui est membre de ce parti, qu'une ministre de l'Intérieur et de la Justice, c'est le même, ministre de la Police d'ailleurs, dit-on en Suisse, alors c'est pas ministre, hein, c'est membre du Conseil fédéral chargé de la police et de la justice, eh bien Christophe Blocher, l'individu dont je parle à l'instant, eh bien il est ce ministre de la justice et de la police. Et le président, ça tourne en Suisse, hein, il y a ce qu'ils appellent une formule magique, c'est le terme utilisé, formule magique qui a été mise en place il y a pas mal d'années déjà, où en fait tous les partis dits institutionnels eh bien cohabitent très allègrement, j'allais dire, sans que cela fasse aucune vague, en Suisse un peu quand même, mais à l'étranger, apparemment, personne n'en parle. On a parlé beaucoup de l'Autriche, on y reviendra. Lorsque, effectivement, il y a eu cette coalition de la droite dite classique, libérale, et de l'extrême droite de Jörg Haider, mais la Suisse, on n'en parle pas, et pourtant, c'est encore plus près que l'Autriche. Et donc, ces gens-là, en dehors d'être populistes et milliardaires, que font-ils, que disent-ils? Eux aussi, en Suisse, ils ont un référendum prochainement, un référendum européen, pas sur le même sujet. C'est sûr, la Suisse, c'est le 5 juin, la Suisse doit-elle ou pas entrer, enfin en gros ratifier les accords de Schengen-Dublin? Bien sûr, eux aussi sont pour un nom un petit peu à l'identique de celui que je viens de décrire concernant les extrémistes de droite français. Un mot, je cite un extrait de leur propagande électorale publié sur Internet, eh bien,
Juste un mot sur les accords Schengen-Dublin, c'est les accords qui restreignent la circulation et l'entrée des étrangers sur le territoire européen.
Tout à fait, mais qui aussi, pour les Suisses, aurait l'inconvénient de supprimer les frontières, en quelque sorte, parce que c'est le fameux espace Schengen, effectivement, qui, pour les immigrés, pour y rentrer, en quelque sorte, est redoutable. Hein, je dirais, il y a des générations d'immigrés, de demandeurs d'asile qui se sont cassés le nez, voire même beaucoup qui sont morts, je dirais, aux portes de la fameuse forteresse Europe. Eh bien, la Suisse craint, la Suisse de ces gens-là, en quelque sorte, la Suisse xénophobe, chauvine, raciste, je crois qu'il faut oser le mot, eh bien, craint cela. Et juste un mot en disant, si la Suisse dit oui à Schengen, cela signifie que le pays le plus riche d'Europe, c'est eux qui le disent, supprime ses contrôles frontaliers avec des conséquences extrêmement graves. Plus de touristes criminels, plus de clandestins, plus de travailleurs noirs et plus de chômeurs. Le chômeur, c'est le côté social des choses, hein, parce que quand même, il ne faut pas effrayer l'Helvète qui travaille dans les fabriques. Mais voilà un petit peu un exemple de ce que font nos voisins suisses. Et effectivement, on en parle peu. Et pourtant, non pas l'extrême droite, mais une droite musclée, radicale, populiste, xénophobe, antifiscale. C'est le schéma assez habituel dans ce type contrée. Eh bien, est au pouvoir. Et ça ne soucie absolument personne. En Suisse, il y a bien sûr une opposition, vous l'imaginez bien sur ce sujet. Il y a des gens qui non seulement refusent de participer à la formule magique, mais qui en plus luttent contre cela.
Oui, mais peut-être pire encore ça, en Suisse, ce qui s'est passé, c'est que justement l'union traditionnelle au gouvernement entre les deux partis de droite classique et de gauche classique ont été bousculés par l'arrivée de l'UDC et ont accepté en fait une sorte de compromis pour inclure en fait Blocher et son équipe au sein de l'accord traditionnel qui faisait fonctionner la Suisse depuis.
Absolument, ils ont intégré. On est passé de la bande des 4 ou des 5, je ne sais pas exactement. Plus à mémoire le nombre exact de partis, effectivement, mais je crois que tu as raison sur le nombre. Ils ont intégré, en gros, c'est comme si nous étions passés en France de la dénonciation de la bande des 4 à une bande des 5 qui inclurait le Front National, même si l'UDC de Blocher n'est pas équivalente au Front National, bien évidemment. J'en ai dit deux mots sur sa politique, mais pour autant, en termes d'affichage, on est quand même sur une démarche relativement voisine. Alors, on peut changer de pays, on fait le tour. Ben, un pays voisin, c'est l'Autriche. L'Autriche, il y a des changements importants. Alors c'est sûr que certains diront que ce sont des épiphénomènes et éventuellement s'en réjouiront. Eh bien, une nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle, elle pourrait l'être. Hein. Le parti de Jörg Haider, qui a été, je dirais, l'un des dirigeants les plus en vue ces dernières années de la droite extrême et l'extrême droite européenne, d'ailleurs sur lequel comptait beaucoup, hein, c'est peut-être lui qui allait incarner le renouveau de ce courant de pensée à l'échelle du continent, parce qu'il avait même la velléité de lancer des listes non pas communes, mais des listes, je dirais, identiques dans les différents pays à l'occasion des européennes. Cette fois-ci, ça a été raté, mais c'est son projet pour les prochaines. En gros, c'était l'Europe aux Européens, pour faire très court, déclinée en différentes langues. Ça a échoué, mais ça pourra marcher. Le FPE, donc le parti de Jörg Haider, vient de connaître une scission. Alors, ce n'est pas une scission à l'identique de celle que Front National a pu connaître avec, avec Bruno Maigret et la création du mouvement national républicain, mais c'est une scission qui, de fait, oblige les tenants de, d'Haider eh bien, à quitter ce parti et à en créer un nouveau. Alors, ce nouveau parti, juste pour la petite histoire, ses initiales, c'est le BZO et une traduction française libre, c'est l'Alliance pour l'avenir de l'Autriche.
Tu peux peut-être préciser sur quelle base c'est
alors, là effectivement, la scission, alors il y a plusieurs histoires, mais pour faire très très court, il y a la petite histoire avec éventuellement des intérêts financiers, que le FPE était en partie aidé, soutenu amicalement par un austro-canadien riche de son État par ailleurs, comme quoi on retrouve quand même des gens, ils ne sont pas tous dans l'umpen prolétariat, hein, les amis en question. Eh bien, concrètement, ça faisait désordre que dans le parti d'Haider, il y ait, par exemple, des nostalgiques du Troisième Reich, que son député européen, ils ont un député européen, Andreas Mölzer, eh bien lui, c'est nazi, le terme est peut-être fort, néo-nazi, on pourrait dire. Hein, néo-nazi, propre sur lui, relooké, quelqu'un qui n'a, bon, il a un âge qui ne lui a pas permis de, je dirais, de fréquenter les mauvais endroits au bon moment, en quelque sorte. Mais enfin, en tous les cas, il se revendique de cet héritage de la Grande Allemagne, en quelque sorte. D'ailleurs, lui aussi, il a été l'initiative de, je dirais, de tentative de fédérer les extrêmes droites européennes, puisque à son initiative, eh bien, plusieurs réunions ont eu lieu en Autriche et ailleurs, rassemblant, eh bien, à un certain moment, le mouvement national républicain de Maigret, le Vlaams Blok flamand, le FPE, bien sûr, son organisation. La Ligue du Nord a participé, même s'ils ont démenti. En gros, essayer de fédérer ces gens-là autour de thèmes communs. Donc, ce n'est pas un trublion, un agité du bocal. Hein, c'est quelqu'un qui, quand même, a une certaine influence dans ce parti. Et peu de temps avant la scission, c'est révélateur, il en avait été exclu du parti de Jörg Haider, Jörg, Georges. Il n'est pas français, il est autrichien, donc il s'appelle Jörg, eh bien, ils l'ont exclu pour, en gros, extrémisme, pour faire très court, ce qui est quand même assez cocasse. Mais effectivement, il y avait des enjeux, parce que l'un des objectifs, justement, du FPE, qui aujourd'hui continue à exister, et avec cette nouvelle organisation, eh bien, elle aspire toujours, je dirais, à participer au pouvoir, dans le cadre, là encore, d'une réédition de l'alliance avec la droite dite libérale, voire même avec la gauche, puisque dans la région d'Haider, eh bien, il y a eu, il y a encore, je crois, une certaine coalition avec le parti socialiste autrichien. Donc, et ça, apparemment, ça ne bouleverse plus personne. Mais bon, c'est régional, dit-on, donc a priori, c'est un épiphénomène. Mais enfin, quand même, la région, c'est pas un canton, c'est une grosse région.
La Carinthie.
Absolument, et donc c'est quelque chose qu'il faut aussi. Je pense que l'antifascisme, il ne peut pas être à géométrie variable. Il est ou il n'est pas. Donc, a priori, les alliances de ce type-là, aussi bien avec la droite dite libérale que, bien sûr, avec une certaine gauche, eh bien évidemment, est à dénoncer et à combattre. Dénoncer, bien sûr, à combattre aussi de la même façon, voire même d'une façon accrue, parce que là, il y a quelque part un mélange des genres et le brouillage des pistes n'est pas possible. Donc, là, deux parties, et hélas, un plus un, ça ne fait pas deux, ça peut faire éventuellement trois. Donc, concrètement, ça peut aussi, je dirais, faire s'élargir l'électorat et donc présenter un réel danger accru, parce que, bon, il avait quand même pris une grosse claque. Haider, en 2000, il avait fait un score relativement important, plus de 25% des voix. Aux européennes dernières, un élu, donc un bide relativement important, une claque en quelque sorte. Et là, peut-être, je ne dis pas qu'il y a une tactique secrète, sourde, mais pour autant, l'opération peut permettre peut-être de ratisser plus large et donc de se recomposer et de se refaire une santé, bien sûr, au détriment de la démocratie, des démocrates autrichiens pardon, et des étrangers qui vivent sur le territoire autrichien.
Deuxième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés. la pays extrême droite. On se torche avec les doigts, y'a plus d'urbain pour ça. Dans un pays d'extrême droite, on s'inscrit pas aux syndicats. Les syndicats, y'en a pas. Y'a plus de pauvres, y'a juste l'État et les autres. Si t'es pas de la bonne couleur, t'es transparent. Dans un pays d'extrême droite, la justice porte le képi, fait de mort au coin de la rue. Dans un pays d'extrême droite, on y parle beaucoup de Dieu, parce que ça fait longtemps qu'il a quitté les lieux. La musique est militaire, ses instruments sont la haine et la guerre. Dans un pays d'extrême droite, tu dis pas non à tout bout de champ, ou alors au bout du champ de tir. Dans un pays d'extrême droite, les hommes veulent bien morter. Mais un grand coup de baïonnette. On se torche avec les doigts, la pluie du monde pour ça. Dans un pays d'extrême droite, on s'inscrit pas aux syndicats. Les syndicats, il n'y en a pas. La musique est militaire, ces instruments sont la haine et la guerre. On vous aura prévenu.
Voilà, on va reprendre l'antenne. On est toujours avec Michel du CRIDA. On continue à faire un tour d'Europe des droites extrêmes et de l'extrême droite. Alors après la Suisse, l'Autriche, on peut parler du Danemark éventuellement, qui est, d'après ce que j'ai compris, le pays qui avait le système le plus restrictif pour l'accueil des étrangers. Alors moi, je le connais sous cet aspect-là. Et qu'est-ce qu'il en est d'abord de la politique gouvernementale sur ces questions-là et puis de ces mouvements d'extrême droite autour?
Effectivement, tu as raison de le souligner. Ce qui aujourd'hui fait en quelque sorte la réputation, à contrario, du Danemark, c'est une politique à la fois d'immigration et relative aux droits d'asile extrêmement restrictive et de plus en plus restrictive. Depuis quelques années, ça a été un petit peu, je dirais, le fil conducteur de la politique gouvernementale de ce pays. Mais le fait qu'il existe dans ce pays, bien sûr, là encore, il existe une extrême droite, je dirais, radicale, marginale. Il y a un parti néo-nazi, il y a même une radio. On parle de radio. Il y a une radio néo-nazie dans la banlieue de Copenhague qui émet régulièrement. Bon, c'est quelque chose de tout petit, mais c'est une caricature de nazis. Pour autant, ils existent. Mais le danger, j'allais dire, hormis pour les immigrés qui ont le malheur de les croiser le soir au coin d'une rue, effectivement, parce que la ratonnade, ça fait mal et ça peut être mortel. Mais hormis cela, c'est grave. Mais ceci étant, relativisons quand même, eh bien, il y a un parti... plusieurs partis, mais il y en a un en particulier qui s'appelle le parti du peuple danois, ou du Danemark, je crois. La traduction, n'étant pas spécialiste de cette langue, n'est pas forcément facile à faire. Mais ce parti est un parti qui n'est pas au gouvernement, mais qui, lors des législatives dernières, il y a eu des élections il y a quelques temps dans ce pays, ben non seulement n'a pas régressé, mais a vu son nombre de parlementaires, donc de députés, augmenter, et en nombre suffisamment important pour pouvoir faire pression sur le parti au pouvoir, qui n'avait peut-être pas forcément besoin de cela, mais qui, en tous les cas, déjà, il était un petit peu naturellement, je dirais, xénophobe et je dirais, hostile au droit d'asile. Mais là, le fait qu'il existe cet aiguillon permanent dont il a besoin électoralement, je crois, pour constituer une majorité absolue lors de votes budgétaires, par exemple, eh bien, que fait-on? Eh bien, on cède, sans se faire trop violence, aux demandes racistes et xénophobes de cette organisation donc, qui s'appelle le Parti du Peuple, qui est dirigé par une dame dont le prénom est Pia, mais son nom de famille, vous m'en excuserez, je ne l'ai non pas oublié, mais je ne souhaite pas l'écorcher. Ce parti, je crois, a une vingtaine de parlementaires. On n'est pas de l'ordre du groupuscule, hein, qui aurait 3-4 élus. 20 sur un nombre qui n'est pas celui du Parlement français. Il y a, je crois, 200, enfin, je dis peut-être une bêtise, mais enfin, il y a un nombre relativement limité de parlementaires. Et donc, ce Parti du Peuple constitue une force très importante au sein du Parlement danois. Donc, l'extrême droite, les droites radicales, les droites populistes, appelées plutôt comme ça que l'extrême droite, parce qu'il n'y a pas de filiation directe avec une extrême droite, je dirais, collaborationniste, nazie, même si à l'intérieur de ce parti, en cherchant bien et même sans chercher trop, on trouvera forcément des gens qui ont cette teinture politique, qui font non pas de l'entrisme, parce qu'ils y sont au chaud, et pourquoi ne pas être là plutôt qu'ailleurs. Par contre, ils ont commencé sur une démarche non pas anti-étrangers, mais sur une démarche fiscaliste, poujadiste, dirait-on en France, à savoir, en gros, rejeter eh bien, l'État social, certes sympathique, à la Scandinave, mais qui pompait, je dirais, les ressources des ménages et des entreprises, c'est eux qui le disaient, et donc qui était insupportable. Et donc, réaction, et peu à peu, eh bien, je dirais, les chiens ne font pas des chats, à un moment donné, eh bien, cette droite radicale, cette droite populiste, à rencontrer eh bien, les thèmes classiques qui aujourd'hui, je dirais, sont le socle des extrêmes droites et des droites radicales européennes, eh bien, à savoir l'immigration. Et donc, aujourd'hui, c'est effectivement, je crois, alors, huit parades hein, de la répression, ça bouge hélas tous les jours, donc je ne sais pas, enfin, en tout cas, le Danemark est bien placé dans le caractère répressif, restrictif de sa législation, et je crois que les populations d'origine étrangère qui vivent dans ce pays en souffrent grandement, et que les réfugiés politiques, ou les réfugiés tout court, eh bien, ont de plus en plus de mal à arriver dans ce pays, qu'il y a quelques maintenant dizaines d'années, était non pas un havre de paix, ça n'existe que dans, je dirais hélas, les bons romans, mais était quand même relativement ouvert quant à l'accueil qu'il offrait, je dirais, à la misère du monde, pour reprendre des expressions connues, je crois, de Michel Rocard sur le sujet. Alors le Danemark, voilà un exemple, et juste faire un petit lien avec ce qui se passe au Parlement européen, parce que là on fait pays par pays, mais tous ces gens-là se retrouvent, non pas au sein d'une internationale noire, grise, brune, mais au sein d'institutions parlementaires tout à fait classiques, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, plus différentes autres structures. Pour les Nordiques, eh bien, il existe aussi une structure parlementaire dans la région. Tous ces gens-là se retrouvent. Et lorsqu'on se retrouve, bien, en dehors de faire des bouffes sympathiques, eh bien, que fait-on ? On fait de la politique. Et éventuellement, on constitue des groupes en commun. Alors, il y a des groupes qui sont dits techniques, où a priori, nous dit-on, les gens n'ont pas grand-chose à voir entre eux, si ce n'est le fait de constituer un groupe pour pouvoir bénéficier d'un temps de parole, éventuellement d'un budget, d'une logistique technique. Mais parfois, il y a des groupes qui sont peut-être plus affinitaires. Par exemple, eh bien, il existe deux groupes au Parlement européen. Ça fait la transition, le lien avec le Danemark. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe pour l'Europe des Nations. L'Europe des Nations, déjà, on sent que ce n'est pas quelque chose de très progressiste, de très ouvert, de très favorable à l'immigration pour rester sur le thème que nous abordions. Mais, et donc, dans ce groupe, petit groupe, mais enfin, il y avait précédemment le RPF de Charles Pasqua, mais heureusement, ils ont été, je dirais, chassés par les électeurs. Donc, pas de Pasquoyens dans ce groupe. Par contre, il y a les députés de l'Alliance nationale, tout à l'heure, on y reviendra, donc les Italiens de Gianfranco Fini, qui sont dans ce groupe. Et il y a un député du Parti du Peuple qui est membre de ce groupe, donc qui fréquente les Pasquoyens, pas au Parlement parce qu'ils n'y sont plus, mais à l'extérieur, les gens de l'Alliance nationale qui sont quand même d'ex-néofascistes, disent-ils, post-fascistes, c'est le terme qui est utilisé, et puis ce Parti du Peuple, plus quelques autres députés de pays voisins. Et il y a un second groupe dont on parle un petit peu moins, parce que son titre est peut-être plus sympathique, c'est le groupe Indépendance et Démocratie. Indépendance, bon, c'est pas un terme qui est forcément, je dirais, connoté, ou en tous les cas, on peut le connoter de façon sympathique. Et démocratie, la démocratie, par définition, là aussi, on peut discuter. Mais c'est quelque chose de plus sympathique, a priori, que l'Europe des Nations. Eh bien, dans ce groupe, il y a, par exemple, des gens, là encore, je dirais, peu fréquentables. Il y a, par exemple, un Grec. Je n'ai rien contre les Grecs. Mais ce Grec, qui s'appelle M. Georgios Karan... Je donne son nom, mais parce que c'est important, parce qu'il est, il est hélas connu pour ses, ses propos et ses dérapages, qui n'en sont pas d'ailleurs, Karan Zaferis. C'est le responsable d'un parti qui s'appelle le Laos. Ça n'a rien à voir avec le parti, avec le pays asiatique en question. C'est le Rassemblement orthodoxe populaire. Bon, la religion orthodoxe en Grèce, c'est quelque chose de très, très majoritaire. C'est la religion majoritaire dans le pays. Mais pour autant, ce n'est pas en soi infamant, au-delà du débat sur la laïcité. Mais ce monsieur est connu et dénoncé par, y compris des gens qui ne sont pas forcément, je dirais, des violences sur, sur les dénonciations des extrémistes de droite, enfin, tels que moi je les entends. Par exemple, les représentants du Congrès juif européen, du Congrès juif mondial, qui eh bien, ont caractérisé cet individu comme étant un antisémite, je dirais, pur sucre. Pur sucre. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas un agité dans son coin. Il a une chaîne de télévision, il a donc un accès aux médias et pour cause, puisqu'ils lui appartiennent. Alors, c'est petit. C'est en Grèce, mais enfin, ceci étant, il a été élu. Il a été élu et donc, il est antisémite. Il est antisémite d'une façon, l'antisémitisme religieux classique, et donc dénoncé, y compris même des partis de droite, ont fait pression sur le groupe pour que eh bien, ce monsieur soit exclu et réintègre, et j'en ai terminé avec les groupes, le groupe des non-inscrits, dans lequel on trouve, eh bien, qui ? Jean-Marie Le Pen, donc les députés du Front National, on trouve les députés du Vlaams Belang, sur la Belgique, deux mots tout à l'heure, donc ex-Vlaamsblok. On trouve Alessandra Mussolini. Alors le nom, je pense, doit hélas rappeler quelques mauvais souvenirs à certains auditeurs et auditrices. Hein. Donc Alessandra Mussolini, petite fille du dictateur fasciste du même nom, donc qui est l'élu d'une extrême droite plurielle, hein, au Parlement européen. Et il y a un autre parlementaire européen qui est aussi élu et qui est aussi italien, c'est un monsieur qui est le dirigeant du mouvement social Flamme Tricolore. Donc, c'est en gros ceux qui n'ont pas voulu devenir post-fascistes et qui ont dit, bah non, nous, le fascisme, désolé, mais c'est notre fonds de commerce, c'est notre en quelque sorte, notre ADN. Donc, on ne peut pas faire sans et donc, on revendique. Et donc, ce monsieur aussi a été élu à Strasbourg, à Bruxelles. Et donc, tous ces gens-là sont dans le groupe des non-inscrits car n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur un programme politique minimum, et aussi il y avait des contraintes, je dirais, juridiques de nombre, et il y avait déjà eu un précédent où la Cour de justice de la Communauté européenne n'avait pas reconnu l'existence d'un groupe extrémiste de droite. Donc ces gens-là sont présents, se rencontrent, discutent, présentent des motions, je dirais phosphore, préparent l'avenir, en quelque sorte leur avenir, le nôtre indirectement, hélas, et c'est quelque chose qu'il faut effectivement avoir à l'esprit, on en parle peu, mais c'est quelque chose de présent, sans parler de l'argent. Parce que tout à l'heure, je parlais de 800 000 euros pour la campagne européenne, mais c'est du pipi-chat, j'allais dire, par rapport à ce que le Parlement européen peut permettre en termes de, je dirais, de subventions, de facilités de voyage, de traduction. En gros, des élus au Parlement européen, ça veut dire la possibilité de constituer à l'échelon continental, eh bien, une organisation politique plus ou moins cohérente. Mais en tous les cas, on se rencontre à Lisbonne, à Athènes, on va, non pas en Suisse, parce que pour l'instant, la Suisse n'est pas encore membre de l'Union européenne, ça viendra, etc., etc. Donc concrètement, on a de l'argent, on a des assistants parlementaires. Beaucoup des cadres du Front national sont des assistants parlementaires, des fonctionnaires du Parlement, ne sont pas des emplois fictifs, ils y travaillent réellement. Mais ceci étant, ils construisent bien sûr l'organisation politique et les relations internationales des partis concernés. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit, hein, l'extrême droite et les droites radicales, ce n'est pas uniquement des manifestations de rue comme le 1er mai ou le 8 mai ou le 9 mai à Paris, hein, pour les initiés, j'allais dire, mais c'est aussi des gens qui, sur un plan institutionnel, sont présents, font pression sur la droite dite classique, sur éventuellement la gauche, et en tous les cas, font passer concrètement leurs objectifs, leur politique, et la porosité étant ce qu'elle est. Je dirais qu'aujourd'hui, la fameuse lepenisation, non pas des esprits, parce que ça, c'était il y a déjà longtemps, mais des politiques, et de la mise en œuvre des politiques, eh bien, elle est belle et bien présente. Et la lepenisation, ça se décline dans toutes les langues de l'Union européenne, hélas.
Alors, tu as évoqué tout à l'heure la Belgique. Est-ce qu'on peut revenir assez rapidement sur le Vlaamsblok ? Comment va le Vlaamsblok ?
Alors, un mot, parce qu'effectivement, le Vlaamsblok, c'est une formation, c'était, parce que le Vlaamsblok a été non pas dissous, mais a eu quelques difficultés de nature judiciaire. Bon, il y a toute une... Les antifascistes belges et les démocrates belges ont depuis longtemps, je dirais, engagé un processus politique, bien sûr, de lutte contre cette organisation fasciste. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du mot. Ont obtenu, je dirais, gain de cause sur un plan judiciaire, à savoir que le Vlaamsblok, donc, qui est une organisation qui est le premier parti dans la Flandre, à Anvers, qui est l'une des villes les plus importantes de la Flandre, le Vlaamsblok est le premier parti et ne peut pas aujourd'hui être aux affaires gérées seul parce qu'il y a ce qu'on appelle un cordon sanitaire, en gros ce qu'en France on appellerait le Front républicain, qui empêche pour l'instant le Vlaamsblok et son succédané, donc on va voir le Vlaams-Belang, suite à la modification, je dirais, de nature judiciaire. Le Vlaamsblok a dû changer de nom, mais ce n'est pas une dissolution au sens où on peut l'entendre. Concrètement, tout était prêt. Et dès le lendemain matin, le journal avait changé, le site avait changé. Enfin, tout était changé. Donc, concrètement, c'était quelque chose d'attendu. Pas d'espéré, mais d'attendu. Et concrètement, rien n'a changé. Au contraire, ça permet de se refaire une virginité. Et donc, de dire, le Vlaamsblok, c'est pas nous, concrètement. C'était hier. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle organisation qui s'appelle le Vlaams-Belang. Je crois que ça veut dire le mouvement flamand, je crois. Enfin, la traduction importe peu, sauf pour les Flamands peut-être. Mais sur le fond, ça signifie très concrètement, c'est une organisation, je disais, nazie, à savoir, les Belges ont essayé à un certain moment de comparer le programme du NSDAP, donc du parti néo-nazi, non pas néo-nazi, mais du parti nazi d'Adolf Hitler, le vrai, j'allais dire, l'original, en quelque sorte, avec le parti, avec le programme du Vlaamsblok, et ils ont trouvé de très nombreuses, je dirais, répétitions quasiment à l'identique. Bien sûr, déclinées à la sauce flamande. Nous ne sommes pas en Allemagne, nous sommes en Flandre. Mais pour autant, en rappelant aussi le passé collaborationniste, de Grey, bon, la Belgique, la Flandre en particulier, a une histoire, je dirais, chargée de ce côté-là. Donc, nouvelle organisation, premier parti dans sa région, dont le mot d'ordre principal est « Belgique crève ». Alors, je ne vous le ferai pas en flamand, mais c'est ça son mot d'ordre. C'est le séparatisme, c'est « Belgique crève ». En gros, le royaume de Belgique, car c'est un royaume, doit disparaître, ne nous apporte que des misères en quelque sorte. En gros, la Flandre, c'est le poumon économique de la Belgique, pour aller très très vite, et donc doit subventionner des régions dites miséreuses, ce qui est comme nuancé là aussi, qui sont donc effectivement la Wallonie, et en Wallonie, bah, effectivement, ils ont le défaut majeur, ces braves Wallons, eh bien, de parler français. Et a priori, la synthèse a du mal à se faire. Donc une organisation au programme fondamentalement extrémiste, dont les dirigeants, même si aujourd'hui ils sont propres sur eux, sont des gens qui ont, il y a encore quelques temps, mais ça c'est un thème qu'on retrouve dans tous les partis d'extrême droite en Europe, manié plus facilement la barre de fer que le stylo Mont-Blanc, mais ces gens-là, aujourd'hui, eh bien, sont, je veux dire, aspirent au pouvoir, et avec peut-être des chances, des malchances, j'allais dire, d'y arriver dans un avenir proche. Donc ça, c'est la Belgique, là encore, comme la Suisse, c'est pas loin, c'est en Thalys, hein, c'est très très près, 1h25, donc concrètement.
Nom, 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 nom. Nom, 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 nom.
Alors, on va terminer ce tour d'Europe avec Michel pour en venir un peu au pays qui est ta spécialité, enfin celui sur lequel tu travailles le plus, qui est l'Italie, et où, pareil, la situation a encore récemment beaucoup évolué. Il y a eu des bouleversements. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'extrême droite en Italie?
Bah, je dirais en Italie, plus largement qu'à l'extrême droite, c'est dans la coalition gouvernementale, donc dirigée par Silvio Berlusconi, donc qui est les auditeurs doivent sans doute s'en souvenir, donc un entrepreneur, on l'appelle le roi des médias. C'est quelqu'un qui est le dirigeant d'un parti créé de toutes pièces, hein, qui n'est pas un parti au sens habituel des définitions que les politologues utilisent, mais qui est un parti entreprise créé autour de sa personne, de son staff, des cadres de ses entreprises. Eh bien, ce parti Forza Italia, donc Aller l'Italie, hein, pour traduire de façon incorrecte mais significative le titre de cette organisation, eh bien, à un certain moment, il y a maintenant plus de 10 ans, Forza Italia, l'Alliance Nationale dont je parlais, donc l'Alliance Nationale, c'est le parti qui, en 1994, a succédé au mouvement social italien, qui était le mouvement néo-fasciste. Hein, c'était un terme, d'ailleurs, qui ne faisait peur à personne et qui était revendiqué comme tel. Les Italiens disaient « nous sommes des fascistes » et le cas échéant, suite à des problèmes de répression judiciaire, disaient « nous sommes des néo-fascistes ». Ça faisait éventuellement plus propre, pensait-il. En 1994, eh bien, le mur de Berlin est tombé. Ces gens-là commencent à réfléchir, à se dire « on est dans un ghetto, faut en sortir, faut mettre un petit peu d'oxygène dans, je dirais, nos positions politiques. Certains, par opportunisme, je dirais, on va à la soupe, en quelque sorte. Hein, ça se décline là aussi dans toutes les langues européennes et pas forcément à l'extrême droite. Mais c'est quelque chose qui monte très fort dans ce parti. Et donc, suite à un débat relativement houleux, eh bien, une nouvelle structure naît, ça s'appelle l'Alliance Nationale, Alleanza Nazionale, qui est une organisation donc dirigée par quelqu'un qui est maintenant le vice-président du Conseil, donc l'équivalent du Premier ministre bis, en quelque sorte, qui est en même temps ministre des Affaires étrangères, ancien membre de la Convention Giscard sur le traité constitutionnel européen, donc Gianfranco Fini, qui est là aussi un gendre, enfin un gendre un peu moins propre sur lui, parce que bon, il a pas tout à fait le look, il est pas aussi, je dirais, sympathique dans son allure que certains parlementaires belges, danois ou suisses ou autrichiens. Mais enfin, en tous les cas, au-delà de cette plaisanterie, sur le fond, c'est quelqu'un qui, effectivement, on peut dire aujourd'hui qu'il a rompu, lui, éventuellement sa garde rapprochée, avec l'héritage fasciste. Il y a encore quelques années, il disait quand même que Mussolini avait été le plus grand homme d'État du XXe siècle, que le fascisme, quand même, c'était quelque chose d'essentiel. Après tout, comme dit-on chez nous, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, il n'est pas un imbécile. Donc, il a changé d'avis. Et donc, aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre du gouvernement Berlusconi. Donc, crise, alternance politique. Hein, l'Italie connaît ça, je dirais, depuis fort longtemps, depuis la libération. Mais arrive un nouveau gouvernement à l'occasion d'élections générales, nouveau gouvernement Berlusconi, donc l'Alliance Nationale, Forza Italia, la Ligue du Nord, la Ligue Lombarde de Umberto Bossi, qui est, pour faire très court, non pas un mouvement régionaliste, hein, un mouvement séparatiste, xénophobe, raciste, y compris vis-à-vis des Italiens du Sud, parce qu'il faut savoir que pour ces gens-là, en dessous de Rome, c'est l'Afrique. Au-dessus, c'est la Méditerranée, l'Italie, la Lombardie, je dirais, c'est le paysage a priori unique qu'ils peuvent mettre en avant.
Oui, mais justement, comment peuvent-ils cohabiter avec l'Alliance Nationale ou Forza Italia, puisque justement, ils ont des velléités séparatistes?
Ah ben, eux, ils sont très clairs. Hein. Ce sont peut-être d'ailleurs les seuls qui sont clairs sur leur programme politique. Hein. Ils disent, nous sommes au gouvernement, éventuellement avec des fascistes, parce que les invectives, les noms d'oiseaux volent bas, hein, chacun se traitant de fasciste. Ensuite, je dirais, Dieu reconnaîtra les siens en quelque sorte, mais sur le fond, en disant, nous, notre objectif, c'est la création, non pas d'un État indépendant, souverain, en Padanie. Padanie, c'est le nord d'Italie, hein, un pays imaginaire qui n'existe que dans la tête de ces gens-là, mais c'est en gros le cœur industriel, financier de l'Italie. Donc, nous voulons une indépendance, ou en tous les cas, une autonomie relative, et donc, c'est le prix à payer pour participer à un gouvernement de cette nature-là, sachant que si son dirigeant, par exemple Umberto Bossi, a commencé, je dirais, dans son jeune temps à militer à gauche, parce qu'il était militant du Parti communiste italien, qu'aujourd'hui, le ministre du Travail, il s'appelle Maroni, a commencé, lui, à l'extrême gauche et dans les clubs de jazz, disait-il. Donc, c'est quand même, c'est pas les affreux, c'est pas le GUD. Mais pour autant, aujourd'hui, ce sont des racistes, des xénophobes, des antisémites à la marge. Mais par contre, ils ont, bien sûr, dans leur rang, accueilli en quelque sorte tout un tas de gens qui ont milité à l'extrême droite la plus radicale, la stratégie de l'attention. Et donc, il y a aussi d'autres larrons dans le schéma, et c'est eux justement qui ont un petit peu mis la confusion dans le gouvernement. Ce sont les centristes issus, enfin, un bout de centristes, un peu les Bérous locaux en quelque sorte, qui existent suite à l'éclatement de la démocratie chrétienne, hein, qui a été, je dirais, la structure politique qui a corseter la politique italienne pendant des décennies. La démocratie chrétienne explose en mille morceaux et plusieurs de ces morceaux se retrouvent dans une union démocratique du centre, un petit peu comme le nom est voisin de celui de la Suisse, mais ça n'a rien à voir a priori, ce sont des démocrates chrétiens classiques et justement, ils ont des velléités, je dirais, politiques fortes, alors subtiles, j'allais dire, pas forcément à l'extrême droite, voire même pas du tout à l'extrême droite, mais pour autant, Ben, le résultat, c'est qu'ils font péter le gouvernement Berlusconi, ils le font chuter. Et donc, certains imaginaient que Berlusconi allait, je dirais, démissionner. Eh bien non, que retrouve-t-on ? Que retrouve-t-on ? Eh bien, un Berlusconi 2, parce qu'au passage, quand même, il y a des élections. Des élections régionales. Les régions d'Italie, juridiquement, je dirais, bénéficient de prérogatives plus importantes que les régions françaises. Il y a, non pas un fédéralisme, mais une certaine autonomie, en tous les cas budgétaire et institutionnelle, qui est accordée aux régions italiennes. Et donc, la droite perd de très nombreuses régions au profit du centre-gauche, dont la région cœur, non pas la plus importante industriellement, financièrement, ça c'est dans le nord, mais la région de Rome, le Latium, le Lazio, qui était dirigé, l'équivalent du président du conseil, je dirais, régional, le Huchon local, toute chose étant égale par ailleurs, hein, je dirais, Huchon n'est pas membre de l'extrême droite, bien évidemment, on peut contester sa politique, mais le problème n'est pas là. Le dirigeant s'appelle Storas. Eh bien, ce monsieur, en dehors d'être, je dirais, président de la région du Latium, évincé, eh bien, était surtout le leader, l'un des dirigeants du courant dit de droite sociale au sein de l'Alliance nationale. Et ces gens-là, c'est qui ? Eh bien, c'est des gens qui n'ont pas renoncé à l'héritage du fascisme. Simplement, ils sont plus intelligents, ils ont compris que pour continuer à survivre politiquement et à arriver au pouvoir, eh bien, il fallait payer certains prix. Et ce prix, ils l'ont payé. Et ça l'a réussi bien, parce que ce monsieur était président de la région. Il se prend une veste électorale. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas remercié. Il est promu dans le gouvernement Berlusconi II, ministre de la Santé.
Voilà. Bah, écoute, on arrive au terme de cette émission, puisqu'il y a l'émission L'écho du Capricorne qui va nous succéder. Donc peut-être juste un mot de conclusion sur ce regard que tu peux porter sur cet ensemble européen.
Juste un mot, hein, ça sera lié à l'Italie. La Cour de cassation italienne vient, après de très nombreuses années, eh bien, d'acquitter définitivement les terroristes noirs, non pas par leur couleur de peau, mais par leur origine politique, donc les néofascistes qui avaient été à l'origine de la stratégie de l'attention, donc en posant une bombe à Milan en 69, avec un nombre important de morts, et bien ces gens-là, après des péripéties judiciaires, je dirais, longues et complexes, et bien viennent d'être définitivement acquittés. Je dirais que ça résume bien un petit peu ce que je disais, non pas quant à l'indépendance de la justice italienne, on pourrait en discuter lors d'une autre émission, elle serait beaucoup plus longue que celle-ci, mais sur le fond, ça traduit bien un petit peu quand même eh bien, les difficultés que les démocraties occidentales ont vis-à-vis du phénomène extrémiste de droite et des droites radicales.
Voilà, bah écoute, Michel, merci beaucoup. On se retrouve bientôt sur cette antenne, puisque tu as un sujet absolument inépuisable.
Hélas.